S'il vous plaît. Luc, chapitre 24. Maintenant, pour vraiment avoir le contexte, il faudrait dans la peine pour lire le chapitre, même s'il y a plusieurs versets. Ce soir, on va regarder surtout le contexte, les événements qui sont quand même intéressants dans ce chapitre. Et demain soir, on va essayer de faire juste un petit peu comme le Seigneur a fait au verset 27, commençant par Moïse. Les prophètes, les Écritures ou les psaumes, le reste de l'Ancien Testament à part Moïse et les prophètes, puis durant une marche d'à peu près 2 heures, d'à peu près 5 000, 11 kilomètres à peu près, pour aller à Jérusalem, à Emmaüs, il leur a donné tout un cours biblique sur toutes les saintes écritures. Comment est-ce qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Alors, il faut quand même se mettre dans le contexte pour voir le sujet qui le préoccupait. Et on sait que le sujet qui le préoccupait, c'était sa personne, lui-même, ses souffrances et sa gloire. Et je remercie le Seigneur que des fois on choisit un sujet un peu avec crainte, est-ce que ça va être à propos, mais je constate que ça va avec l'étude de notre frère le matin, l'interprétation de la Bible. Puis il a parlé pas mal, n'est-ce pas, ce matin, de serviteur, de ministre, de ministère, n'est-ce pas, dans Romains 12 et autres, pour nous montrer comment est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement choisi par Dieu, ou loin par Dieu, par l'Esprit Saint, pour quoi? Enseigner, exhorter. Aussi, pour un ministère, servir. Et voilà, donc, nous avons ici le serviteur par excellence. Puis il veut se manifester à deux disciples, comme aux autres, comme à vous et moi, aujourd'hui. Donc, on fait une lecture. Peut-être, ce serait bon d'avoir, possiblement, est-ce qu'il y aurait 3 frères qui voudraient nous aider ici au micro, puis lire les versets qui sont là. Peut-être 1 à 12, 13 à 35, et 36 à la fin du chapitre. OK? S'il vous plaît, ça nous aidera. Alors, tu peux commencer. As-tu commencé déjà? Oui, à enregistrer, c'est bien. On va faire la lecture et on n'aura pas besoin de tout relire, mais seulement des parties demain soir. J'aimerais mentionner que M. Anderson lui-même va reprendre mercredi soir pour s'adresser à toute l'Assemblée avec traduction. Puis jeudi soir, Errol va prendre au moins une partie, sinon pas tout, le jeudi soir, pour terminer les soirs. Et notre frère sera avec nous de nouveau, M. Anderson, le vendredi matin pour la dernière fois et pour la dernière rencontre. OK, Lucien, s'il vous plaît.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé.
Merci, Lucien. Maintenant, deuxième frère, s'il vous plaît, peut-être de 13 à 35.
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais à leurs yeux s'étaient empêchés de leur connaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et le magistrat l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec eux, qui étaient avec nous, sont allés au sépulcre et n'ont trouvé ces choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, le pain après avoir rendu grâce et le rompit, et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Il nous expliquait les Écritures.
Bon, un autre frère, s'il vous plaît. Jules va nous lire à partir du verset 33.
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que j'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu.
Merci bien. Ce serait assez difficile d'être exact dans tous les événements, surtout en ordre chronologique de ce qui se passe ce jour si glorieux, la résurrection. S'il n'y avait pas dans le Nouveau Testament, le chapitre 24 de Luc, et d'autres passages dans les autres évangiles qui parlent de cet événement, bien, on ne serait pas ici. Hein? Voici donc ce qu'on voit, le salut que le Seigneur Jésus est venu accomplir, qu'il est réalisé. Il a accompli l'œuvre que son Père lui a donnée d'accomplir. Et donc, les preuves commencent tout de suite à se manifester. Mais même face aux épreuves, des évidences visibles, tangibles, ce qui m'a frappé beaucoup en lisant le chapitre, c'était l'incrédulité, c'était l'incapacité de ceux et de celles qui étaient les plus près de lui de croire. Et on va voir comment est-ce que le Seigneur Jésus, il se manifeste. Il se manifeste simplement, je crois, parce que il sait que le cœur de l'homme est si lent à croire. Maintenant, peut-être, vous seriez un peu comme moi, je serais peut-être prêt, après y avoir, à les blâmer. Mais je ne doute pas que si j'aurais vécu les mêmes choses que ces disciples-là et ces femmes-là, je ne sais pas si même j'aurais cru avant d'en avoir d'autres signes encore. Mais ils ont vécu avec lui. Et malgré tout, ils n'ont pas pu croire, au moins au début. Le cœur humain est vraiment borné. Il faut dire aussi quand même que le sujet est vraiment dépassé en ce qui concerne le cœur humain et la compréhension humaine. Après toutes les preuves, après avoir vécu avec lui, ils n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas pu croire. Et voilà pourquoi, et comme la frère nous a lu même ce matin, et qu'on va lire encore aussi plus tard dans notre étude, que même avec toutes les preuves, tous les miracles, toutes les évidences, le cœur humain était incapable de comprendre et de croire. Ça me dépasse, ça, hein? Alors, on peut bien comprendre qu'aujourd'hui, vous et moi, le premier, même élevé dans une famille chrétienne, nos amis, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos voisins, notre parenté, on se demande comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas croire et comprendre ça. Ils ne sont pas pires que ces gens ici dans Luc chapitre 24. D'accord avec ça? Mais moi, le premier, j'ai tendance à oublier ça. Donc, on essaye de toutes sortes de manières, de toutes sortes de façons et de projets à amener les hommes au Seigneur. Puis avec raison, on doit répandre la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, n'est-ce pas, dans Matthieu 28, après sa résurrection, juste avant qu'il parte, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors, il fallait « aller ». Il ne dit pas « inviter », ils ne viendront pas. On y va. Parce qu'il sait bien qu'ils ne croiront pas si on n'y va pas. Romains chapitre 10 aussi. Combien que sont beaux les pieds qui portent la bonne nouvelle. Voilà donc une responsabilité. Mais voilà que la société vers laquelle qu'on va, même comme nous lisons dans l'Ancien Testament, dans Isaïe et autres passages, cette société est une société vers laquelle on va avec l'Évangile, mais ils ne croiront pas. Alors, ce n'est pas encourageant, ça. Et le Seigneur a dit à ses disciples aussi, dans Matthieu chapitre 11 et autres passages, qui les envoyait, mais en les envoyant, ils allaient avoir des persécutions. Que les gens allaient leur donner la misère, du trouble, vous allez avoir des persécutions, des tribulations. Alors, il n'y avait aucune promesse de succès. Le succès, on sait très bien, n'est pas en nous. Même si on pourrait essayer d'avoir toutes sortes de preuves, il n'y a qu'une seule façon. Et c'est ce qu'on a vu, justement, en cas des femmes, les deux disciples, d'autres disciples, Pierre, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent. Ça, je trouve ça encourageant. Ça m'aide à continuer à servir le Seigneur, même si on ne voit pas tout de suite du succès, en guillemets, des résultats. Même si on voit dans Matthieu chapitre 13 qu'il n'y a qu'un quart de la semence qui produit du fruit. Et même dans cela, ça varie énormément dans le pourcentage. Vous voyez? Ce qui veut dire que même en étant fidèle, comme on a été disciples, les apôtres, et Jésus lui-même, pour répandre la bonne nouvelle, eh bien, il va avoir du succès seulement et uniquement quand lui-même va ouvrir l'esprit. Revenons maintenant dans le chapitre. On apprend que ça commence avec quelques femmes. Et vous savez comme moi, quand on regarde dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien, mais en particulier dans le Nouveau, on voit l'importance du côté féminin. Des femmes, que le Seigneur donne une position, une place si importante dans les Saintes Écritures, que je trouve vraiment un exemple pour moi-même. Si on revient au premier verset, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et au verset 10, nous apprenons, c'était qui ces femmes-là? Bien, il y en avait trois, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Donc, il y en a trois en particulier qui sont nommées. Évidemment, il y en avait d'autres aussi, qui, avec d'autres disciples, sans doute s'ajoutaient pour entendre l'histoire, puis expliquer ce qu'ils ont entendu dire, etc. Mais il y en a trois en particulier qui se rendent au sépulcre. Et quand on voit qu'est-ce qu'elles sont allées faire, tout de suite, on voit le cœur humain, malgré les sentiments, malgré la gentillesse, malgré la sincérité et malgré leur amour exemplaire pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit dans le cœur de ces femmes-là? Vous avez remarqué? Malgré l'amour. Plus on voit quelque chose, côté négatif. Ils sont allés, premier jour de la semaine, avec des aromates pour le corps de Jésus. Alors, c'est pourquoi ils sont allés là? Pardon? Ouais. Elles ne croyaient pas à la résurrection. Vous voyez tout de suite comment est-ce qu'on voit le cœur de l'homme. Malgré la dévotion, l'amour de ces femmes-là, il y avait dans leur cœur de l'incrédulité. Si on vient dans Jean chapitre 20, on sait qu'il y en avait trois, mais il y en a une en particulier dont l'Évangile nous parle, Jean nous parle, dans le chapitre 20 de Jean, premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, ça n'exclut pas les deux autres, mais ici Jean parle en particulier d'une, Marie, se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Alors même elle, c'est frappant, hein, qui aimait tellement le Seigneur, elle ne croyait pas. Dans son idée à elle, dans son esprit à elle, ils l'ont enlevé. Et vous rappelez que déjà il y a eu discussion sur cela. Les prêtres, les pharisiens, les scribes, etc., ils ont demandé à ce qu'on mette une pierre, une garde, et tout ça, en cas que quoi? Au cas que les disciples viennent dérober le corps. Alors, sans doute, c'est ça l'histoire qui circulait partout. Puis ces pauvres femmes, dans toute leur sincérité, et pauvre Marie, qui aimait tellement son Seigneur, voilà, elle a cru des histoires qui circulaient. Je trouvais ça frappant, cela. Mais heureusement, le Seigneur ne l'a pas laissé là. Dans Matthieu chapitre 28, il y a quelques passages, je vais juste simplement faire un survol, pour ne pas prendre le temps de tout lire, mais dans le chapitre 28, versets 2 à 4, nous disons que les gardes ont senti trembler la terre, et ils ont vu un ange assis sur la pierre, puis les gardes aussi ont tremblé. Ce sont des événements quand même assez frappants. Vous? Et quand les autres sont arrivés, les autres, à part Marie, parce qu'il y en avait trois, elles sont entrées voir. Peut-être que c'est bon de regarder un ou deux passages quand même dans Matthieu et au chapitre 28. Matthieu 28, et à partir du verset, au verset premier, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Puis là, on explique l'aspect, la parure de l'ange. Donc, quand ils sont arrivés, les femmes, elles ont vu à l'intérieur l'ange, puis dans Marc chapitre 16, verset 5, on lit qu'ils ont vu un autre ange. Alors, il y en avait plus qu'un. Mais chaque récit, chaque histoire, chaque évangile semble présenter l'histoire, la même histoire, d'une façon un petit peu différente. Mais quand on le met tout ensemble, on peut voir la chronologie, les événements. Puis je me sens pas expert vraiment pour tout mettre ça droite, là. Peut-être que vous êtes mieux que moi, mais quand même, on peut voir assez bien ce qui se déroule. Trois femmes. Une femme en particulier qui semble très attachée au Seigneur. Bien, quand on revient dans Luc chapitre 9, Luc chapitre 9, ce serait bon de garder notre doigt là-dedans. Excusez. Oui. Luc chapitre 24, je veux dire là. On se rappelle que au verset 8, nous avons lu, et elles se souvinrent des paroles de Jésus, c'est-à-dire les deux hommes ou les anges, quand ils ont parlé aux femmes, quand ils ont parlé à Marie et les deux autres, vous vous rappelez pas de ce que le Seigneur Jésus vous a dit. Au verset 6, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il se ressuscite le troisième jour. Et c'est là, lorsque les anges commencent à leur parler, on peut voir que c'est des femmes comme vous et moi, bien oublieuses. Pourtant, il a parlé à plusieurs occasions. On va en lire quelques-uns. Luc chapitre 9 et le verset 22. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle à ses disciples. C'est dans le contexte où Pierre le reconnaît comme le Messie. Mais en parlant à ses disciples, au verset 22, chapitre 9 de Luc, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le verset 44, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. etc., etc. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. C'est difficile à imaginer, nous, parce que nous, on regarde en arrière. On a tous les faits inscrits sur les pages saintes de la parole de Dieu. Et en plus, nous avons autre moyen pour comprendre. Notre frère en a parlé ce matin. Vous vous rappelez? C'est quoi? Ce que les disciples n'avaient pas encore. L'Esprit Saint. L'onction. L'onction. Quand je pense à ça, je me dis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Qu'on a même le privilège, on peut oser même ouvrir la Bible. Nous qui étions si ignorants, autrefois. Et comme notre frère nous a expliqué, on peut avoir une compréhension, une connaissance, une sagesse qui dépasse tous les intellectuels universitaires, n'importe qui ne connaît pas le Seigneur, tandis que nous, on peut être dans les plus ignorants. Mais en lisant un verset, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Mais eux, elles, ce n'est pas encore le cas. Il faut vraiment être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous donne. Hein? Et cela a tendance à m'inciter à en bénéficier, de ne pas négliger ni de mettre de côté une telle richesse, de savoir que nous avons à notre disposition beaucoup plus qu'un diplôme universitaire qui pourrait prendre 7-8 ans même à gagner à la sueur de notre front. Alors, on a besoin que personne nous enseigne, on sait tout parce qu'on a le Saint-Esprit. C'est ça. C'est beau de voir comment le Seigneur m'aime avec les siens. On va voir tantôt. Oui, il a ouvert l'esprit. Mais ça n'empêche pas qu'il a fait un voyage de 2 heures. Il a fait une classe biblique sur pattes. Une bonne marche. Et le temps, pour moi, ça passe vite. C'est rare qu'on prend des bonnes marches pour jaser aujourd'hui. C'est malheureux, ça, hein? Mais ça me fait penser quand on fait un voyage, une dizaine d'heures. Ah, que c'est long, ce voyage-là. Mais si on est deux placoteux dans l'auto, là, ça fait ça. Oh, on est arrivé, hein? Et j'aime penser que pour ces deux-là, hey, pour moi, ils ont resté surpris d'arriver si vite chez eux. Le soir est arrivé. Comment cette tard, fait noir. On pense Cléopas et l'autre disciple, on ne sait pas c'est qui, mais probablement Cléopas avait sa femme avec lui, peut-être, possiblement. Et donc, le couple, ils ont invité l'étranger, en guillemets, dans leur maison. Et on voit toute la suite lorsqu'on invite le Seigneur chez nous et on prend le temps de communier avec lui. Il a rompu le pain. Possiblement, ils ont reconnu ses mains parce que c'est pas la première fois qu'il rompt le pain, lui. On sait ça, hein, avec ses disciples. Même à la fin de sa vie, pour instituer leur pas du Seigneur, mais avant la fin de sa vie, pour nourrir des milliers de personnes. Et de voir multiplier de ces petits pains-là assez de pain pour des milliers de personnes. Et j'aime penser qu'en ouvrant leur esprit, il leur a quand même donné une connaissance qui montre qu'il faut quand même se servir de ce qu'il nous a donné entre nos deux oreilles. On ne peut pas dire, bon, mais je connais un verset ou deux, mais je suis sauvé, là, mais je connais tout, je connais plus qu'un professeur universitaire. Vous comprenez, là? Ça prend vraiment, comment est-ce qu'on pourrait dire, de notre part, un certain effort, un désir, une soif, une faim pour connaître les Écritures. Et vous, comme moi, quand le Seigneur nous a sauvés, c'est ça qui est arrivé, n'est-ce pas? On a eu une soif pour connaître la parole de Dieu. Donc, quand les anges ont dit aux femmes, comme on a lu dans Luc chapitre 9, puis il y a d'autres passages, si vous voulez les noter, Luc chapitre 13, versets 32 et 33, Luc chapitre 17, le verset 25, Luc chapitre 18, les versets 31 à 34, que le Seigneur parlait à ses disciples de cette façon-là. Il faut que le Fils de l'homme, puis en passant, le Fils de l'homme, Jésus, c'était une de ses expressions préférées pour s'identifier. C'est beau ça, hein? Il était Fils de Dieu, il était roi, non pas sur le trône encore, il était rédempteur, il était faiseur de miracles, il pouvait ressusciter les morts, mais il aimait bien s'annoncer comme Fils de l'homme. Parce qu'il est venu vers l'homme. Dieu manifesté en chair. Puis quand Jésus disait tout le temps que le Fils de l'homme, il devait être mis à mort, il devrait souffrir entre les mains des pharisiens, des scribes. Il devait mourir. Et qu'il ressuscite le troisième jour, il ne comprenait rien. Mais il a dit pareil. Il a tout enseigné ça pareil. Et quand les anges ont rappelé aux femmes, vous ne vous rappelez pas, c'est ce qu'il vous disait toujours. Puis ses chères sœurs, bon exemple pour nous, hein, nous les gars, des fois on a la tête dure. Ils se souvinrent. Ah, ça, ça a changé des choses. Ils se souvinrent. Que le Seigneur nous aide à avoir des mémoires qui peuvent être réveillées quand il nous parle par sa parole. Et j'ai bien aimé la façon que notre frère, ce matin, il a approché le sujet, plutôt dimanche matin, surtout. Peut-être qu'il l'a mentionné un peu ce matin, mais hier matin. Quand on traduit, des fois, on perd des bouts, hein. Faut continuer, là. Mais si je me souviens bien, il a bien dit, on ne peut jamais connaître et faire la volonté de Dieu avant de faire quoi? Vous vous rappelez? Romains chapitre 12, 1 et 2. Tiens, prends tout, Seigneur. C'est vrai, hein? Et voilà, pour vraiment avancer dans le Seigneur, comprendre sa parole, même saisir la portée de tous ces événements-là, il faut vraiment se donner à lui. Il faut donner notre cerveau pour penser, pour étudier, pour lire. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire de tous hommes et femmes des théologiens, c'est pas ça là. Mais au moins se nourrir jour après jour. Puis j'encouragerais nos sœurs, nos mères, on sait combien, et les hommes aussi, qui doivent partir chaque matin vers une bonne heure pour travailler, pour pouvoir nous rappeler de ce que le Seigneur nous a dit, il faut d'abord savoir ce qu'il nous a dit. Il faut lire. Même si c'est juste quelques versets, même si c'est juste un petit feuillet, prenez courage et lisez. Et vous allez rester surprise, et les hommes, vous allez rester surpris combien l'Esprit Saint peut nous rappeler des choses. Les femmes se sont rappelées de ce que le Seigneur Jésus a dit. On va arrêter pour une petite pause tantôt, puis quand même finir vers 8h30. Il y a des choses peut-être qu'il faut aller assez vite. Mais j'aimerais aussi, en parlant d'aromates préparés qui nous montrent l'incrédulité du cœur ou des cœurs de ces femmes-là et même de Marie de Magdala, il y a aussi cette question d'un corps dérobé. Ça m'a frappé l'histoire, comme on voit au verset 3. Dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, et le verset 3. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et on se rappelle que Marie a dû dire, même parlant à Jésus, sans savoir qui c'était, ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ce qu'ils l'ont mis. Oh Marie. Elle a compris quand elle a entendu la voix de son bien-aimé. C'était de bonne heure le matin, c'était assez sombre, on ne sait pas comment est-ce que Jésus était habillé non plus, puis elle devait avoir les yeux pleins de larmes, pas facile. Mais elle avait les oreilles ouvertes. Elle a reconnu la voix de son Sauveur. Pourquoi qu'elle a reconnu? Pourquoi les femmes ont pu se souvenir des paroles de Jésus? Parce qu'elles les ont déjà écoutées. Pourquoi que Marie a pu entendre, c'est-à-dire connaître sa voix? Parce qu'elle l'a déjà entendue. Et dans un moment difficile, le Seigneur s'approche comme il fait toujours. Et voilà, il vient à la rencontre d'une femme dans le besoin. Mais avant d'avoir cette révélation-là, reconnaître son Seigneur, on voit qu'elle ne savait pas où ce qu'ils avaient mis son Seigneur. Elle ne croyait pas encore à la résurrection. On n'a pas le temps de lire tout, mais je vais juste mentionner quelques passages, vous pouvez les vérifier chez vous, parce que je sais que vous prenez des notes, là. Quand on lit dans Matthieu 27, les versets 64 à 66, et aussi dans Matthieu 28, les versets 13 à 15, on va lire peut-être un des références, Matthieu 28. Matthieu 28, lisons. Au verset 13, là le Seigneur est ressuscité. Tout le monde est bouleversé. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va dire? Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur apprend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et vous rappelez, comme j'ai dit tantôt, pourquoi est-ce qu'on leur a demandé de sceller le tombeau avec une pierre et qu'on mette une garde? Vous rappelez, puis là, on leur a dit, vous avez une garde, mettez-vous une garde. Est-ce que c'était une garde sans Sanhédrin ou juif ou quelques soldats? Il y en a qui parlent de quatre soldats, d'autres, c'est difficile à savoir, mais c'est pas tellement important. Il y avait une garde. Et c'était pour satisfaire aux Juifs. Encore que les disciples, encore que les disciples viennent dérober le corps. C'est ça l'histoire qui s'est circulée. Alors, ils ont tout pris les précautions, ils ont tout fait pour sceller, pour que personne puisse voler. Puis en fin de compte, ils payent des soldats pour dire quoi? Ils les volaient. Vous voyez comment est-ce que... Moi, ouais, c'est pas tellement logique leur affaire, hein? Pardon? C'est une bonne question, ça. Qui a fait ça s'il dormait? Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir? Ils étaient payés pour ça. Ils étaient payés pour répandre exactement l'histoire dont les pharisiens avaient peur, les scribes, les prêtres avaient peur. Oui?
On s'est payé pour garder, on s'est payé pour manger.
Ils ont payé pour garder, c'est sûr, oui. Le salaire normal, c'est vrai. Ils ont eu du temps supplémentaire. OK. C'est des bons points, ça. Si les disciples l'avaient volé, comment ont-ils roulé la pierre et scellé? Pourquoi les soldats ne l'ont pas entendu? Ben, ça dormait dur. Pourquoi les disciples auraient si soigneusement enlevé et rangé les bandes à terre et plié le linge de sa tête dans un lieu à part, comme on voit dans Jean 20, les versets 6 et 7? Pourquoi? Comment? Okay. Ça, c'est le monde. Eh? Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour ne pas croire. C'est ça. Puis, même Pierre et Jean, on voit dans Jean 20, les versets 8 à 10, ils semblaient croire à la réalité de sa disparition. Eux, ils savaient que ce n'était pas eux qui ont volé le corps, ça c'est sûr. Mais pour eux autres, il est disparu. Comme Marie, sans doute les autres femmes aussi, ils l'ont mis où? Qui a fait ça? Mais ils ne croyaient pas encore, quoi? À la résurrection. Oh, que Dieu est patient, hein? Malgré tout, les signes. Bien. Peut-être on va finir avec un point ici. Est-ce qu'il y a une collation ou une petite... Oui? C'est pas obligé, là. On peut juste une petite cassure sans ça, là. OK.
C'est pas
Mais là, peut-être parle de la résurrection des chrétiens, mais la résurrection du Seigneur Jésus, comme les disciples ont dit dans Luc 24, on pensait que ce serait lui qui délivrerait Israël. En autre mot, dans leur esprit, c'est lui qui allait être roi, les délivrer des Romains, régner, mais Jésus leur dit un peu plus tard, vous ne savez pas, il fallait que le Fils souffre et qui entre dans sa gloire. La mort, après ça la gloire. Donc, entre les deux, il y a quoi? Sa résurrection. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas saisi. Et voilà, on a quand même, dans Jean chapitre 20, j'aimerais peut-être finir cette petite partie avec ce passage-là. Jean chapitre 20 et le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. On revient à Marie de Magdala. Quand elle pleurait, elle se baissa pour garder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la taille, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle sortant, tourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Alors, vous voyez, elle croit ce que les prêtres circulaient, ce que les soldats disaient. C'est une femme tout à fait normale. Vous, si on verrait, s'il y avait eu dans le temps un journal, le poste de Jérusalem, puis là, les manchettes se disaient, bien, on a volé son corps, cet imposteur, ce roi des Juifs imposteur, puis là, ils l'ont caché en quelque part, mais les disciples, les femmes, les deux sur le chemin de Maïs, c'est ce qu'ils pensaient. Puis probablement on serait pareil, mais peut-être on serait plus méfiant parce qu'on sait qu'il n'y a pas de grande vérité dans bien des journaux, je dis. Mais c'est ce qu'il pensait. Jésus lui dit, au verset 16, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. D'autres traductions nous diraient, ne me retiens pas, semble-t-il que le mot veut dire cela. Moi, je ne peux pas tout expliquer moi-même personnellement, mais il y avait encore quelque chose à faire avant de rencontrer les siens, monter chez son Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Quelle rencontre pour une pécheresse, une rencontre personnelle. Elle cherchait et elle se tenait prête, ce qui indiquait clairement son amour. Quel exemple pour nous les hommes en particulier, la femme qui aime le Seigneur, qui se tient près de lui, et voici qu'elle a eu la meilleure part. Une femme est la première de rencontrer et voir le Seigneur après sa mort. Moi, je trouve ça touchant. Et je voudrais que nos sœurs soient vraiment encouragées de cette vérité-là. C'est un fait. On peut voir la grâce de Dieu. D'abord, qu'elle soit choisie comme première. Mais il y a une autre chose touchante dans tout ça. Pourquoi Marie? Il y avait d'autres femmes. Quelle sorte de femme que c'était Marie? Hein? Marie de Magdala, de qui le Seigneur avait, selon 1 Corinthiens, chapitre 15, chassé sept démons. C'était moyen une femme, ça. C'est ça un peu comme aujourd'hui, je ne sais pas, une sorcière ou en tout cas un déchaîné. Hein? La plus mondaine qui peut exister, la plus pécheresse, s'il y a plus ou moins, que le Seigneur peut sauver, il choisit. Beaucoup, oui. Un petit break. Chapitre 24, on a aussi, pas seulement une femme privilégiée, mais aussi un homme qui est beaucoup privilégié. Puis on va s'arrêter juste quelques moments. Si ça ne vous dérange pas, on prendra peut-être une dizaine de minutes pour terminer ce soir. Et on va regarder Pierre rapidement au verset 12. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc, on voit que Pierre, bien, lui, il est parti. D'autres disciples, il y a Jean aussi qui l'a vu, et je connaissais tous les détails associés à ça. Au verset 34, nous lisons « Et disant », en parlant justement des disciples. Peut-être avoir lu le verset 33 pour avoir un bon contexte. Luc 24 et le verset 33. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem en parlant des deux disciples, après avoir eu les yeux ouverts et après avoir connu le Seigneur. Mais le Seigneur est disparu de devant eux. Eh bien, eux, ils sont levés alors même, c'est encore le soir, sans doute assez avancé, parce qu'on se rappelle qu'ils avaient invité le Seigneur à entrer chez eux. Et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent, c'est-à-dire les deux ont raconté aux onze, et ils racontèrent ce qui leur est arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Pierre, évidemment, a eu aussi une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et semble-t-il, même avant les deux, même avant les onze, mais ça c'est évident pour les onze, Pierre, comme Marie, a rencontré le Seigneur. Et encore là, sans doute vous êtes d'accord avec moi qu'on voit la grâce de Dieu. Comme, je crois, Léonard qui disait tantôt, voilà, en tout cas, j'aime bien tous les petits commentaires après. Il l'a dit, Léonard, tantôt. La dernière à la croix, Marie. La première à la rencontrer, Marie. La plus pécheresse. Et on se rappelle comme Hérode l'a mentionné aussi, que j'ai apprécié, elle a embaumé le Seigneur même avant sa mort. On se rappelle, et que le Seigneur, donc, a dit, comment est-ce qu'il a dit ça, que on parlera d'elle, de tout ce qu'elle a fait. Je ne me souviens pas les mots exacts. Le 14, on va parler d'elle pour longtemps ou jusqu'à la fin. Ah, c'est ça. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on parlera d'elle. Et on voit donc quelle sorte de femme qu'elle est, combien est exemplaire pour nous. Alors voilà une femme qui était remplie de péchés avant d'être sauvée. Elle a fait des gaffes énormes dans sa vie. Des fois, le Seigneur va loin pour chercher des pécheresses et des pécheurs pour les sauver. On peut donc voir sa grâce dans ce qu'il fait là. Mais voici un homme. On se rappelle ce qu'il a fait, lui. C'était pas un mari de Magdala, ça. C'était un disciple. Un disciple plein de zèle à part de ça, qui voulait défendre le Seigneur, puis il a tranché l'oreille, il a manqué son cou, parce que pour moi, il voulait trancher la tête des soldats, des serviteurs, qui sont venus voir, prendre le Seigneur Jésus pour le crucifier. Mais c'est l'homme, comme on voit dans Luc chapitre 22, 33, dans Jean chapitre 13, 37, dans Luc chapitre 22, 56 à 62. C'était un homme qui a régné son Seigneur et qui, donc, a pleuré sur ce qu'il a fait, même en étant disciple. Mais c'est évident que le Seigneur, malgré ses gaffes, malgré ses erreurs, il est allé trouver en premier, en parlant des hommes, Pierre. Cet homme qui était toujours bien prêt à se battre, qui avait un cœur de lion, peut-être quand il se pensait le gagnant, mais quand il se voyait la perdant, il était comme un mouton. Il renie son Seigneur. Quelle grâce de la part du Seigneur. Jean 21, on se rappelle, à partir du verset 15, aller au verset 19, on voit comment et jusqu'à quel point le Seigneur l'a pardonné. Il lui demande trois fois, pas seulement en personne, mais devant tous les autres. M'aimes-tu? Et on se rappelle que Pierre n'a pas pu répondre 100% à l'amour que le Seigneur demandait. OK? Il était prêt, il était plus sage, là. Hein? Il n'a pas dit, là, je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Non. Oui, je t'aime. Tu sais que je t'aime, le mot filio. C'est un amour qui peut être amélioré quand même. Mais le Seigneur, dans sa grâce, il lui dit quoi? Paix, mes brebis. Puis tout ça, ça me rassure, ça. Le fait qu'il prenne une femme la plus pécheresse, qui désire la rencontrer dans ses larmes, dans sa tristesse, la consoler et lui dire son nom. Le fait qu'il rencontre cet homme Pierre qui fait une gaffe si profonde et terrible qu'il a regretté sans doute toute sa vie. Mais le Seigneur lui donne quand même un ministère. C'est la grâce de Dieu, cela. Et je pense que notre frère ce matin a voulu souligner ça en parlant celui qui exerce un ministère et qu'il fasse avec zèle dans Romains chapitre 12. Hein? Et on se rappelle donc un ministère, c'est encore un indice, un signe de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une raison pour se dire ministre. Et laissez-moi vous dire, c'est même pas une raison de se donner un titre. Que ce soit pasteur ou docteur ou évangéliste ou quoi. C'est un privilège pour servir le Seigneur, un ministère. Voyez-vous? Ça nous fait penser aux paroles de l'apôtre Paul dans 1 Timothée et au chapitre 2. Vous le connaissez bien, sans doute, ce que Paul dit dans 1 Timothée, premier chapitre, et le verset 12. 1 Timothée 1, 12. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Ce mot « ministère », c'est le mot qui nous donne le mot « servir » ou le mot « diacre ». Et on sait que le Seigneur Jésus lui-même dit dans Marc chapitre 10, je pense, verset 45, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs, tous. » C'est le mot qui nous donne exactement le même mot, diacre, qui nous montre que Jésus était un diacre, mais un diacre divin avec un ministère spirituel, c'est-à-dire un serviteur. Et voilà que Paul est choisi dans un ministère pour servir. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Eh bien, il se situe en s'identifiant comme le premier des pécheurs. Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait miséricorde. Il a choisi pour le servir. Malheureux. Dans un sens, celui ou celle qui se contente d'être sauvé sans avoir le ministère. Parce qu'en plus d'avoir la grâce d'être sauvé, nous pouvons avoir la grâce de le servir. Et ce que nous avons dans Romains chapitre 12, des différentes grâces qui nous sont données. C'est la grâce de Dieu qui a choisi Marie, et c'est la grâce de Dieu qui a choisi Pierre. C'est la grâce de Dieu qui a choisi Paul, et c'est la grâce de Dieu qui nous choisit, vous et moi, pour le servir dans n'importe quelle tâche. pour sa gloire. Maintenant, je dois aller rapidement. On sait que quand on regarde les disciples, à premier abord, ils refusent l'histoire. Il y a une histoire refusée. Ils ne peuvent pas croire tout ça. Là, finalement, on sait que il commence à croire, même au verset 37 et le verset 41, quand le Seigneur s'est présenté parmi eux, ils ne croyaient pas leurs yeux. Ils pensaient voir un esprit. On sait que le Seigneur a apparu au moins trois fois à ces 11-là, une fois aussi sans Thomas, une fois sans Thomas. On ne prendra pas le temps d'aller dans tous ces détails-là. Il est allé aussi les rencontrer au bord de la mer de Galilée. Puis on voit ça dans Jean chapitre 21, les versets 1 à 14. Dans 1 Corinthiens 15, Paul nous dit qu'il a rencontré 500 frères rassemblés et il a paru à Jacques et à tous les apôtres aussi, à une autre occasion, dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 17. Tellement de preuves, tellement de signes que le Seigneur était véritablement ressuscité. Mais à chaque cas, ou s'il y en a un récit, ou bien des détails dans la Bible, parce qu'on n'a pas les détails de toutes les rencontres, en particulier les 500, on ne sait pas ce qui se dit, ce qui s'est passé, mais voilà, on voit toujours la première réaction, c'était incrédulité. Mais malgré tout, comme on voit dans le verset 52 et 53, dans Luc chapitre 24, ils ont fini par faire quoi? Adorer, louer, bénir avec joie. C'est quoi qui a fait le changement? Je l'ai déjà dit un peu au début de la soirée. Bien, on se rappelle dans le verset 27, comme on l'a déjà lu et mentionné, qu'il a parlé aux deux. Puis aussi, il a parlé aux 11 réunis. Au verset 52, etc., il leur a parlé de lui-même. Dans Moïse, et j'ai aimé ça lire dans les commentaires une explication, parce qu'on se rappelle que quand un juif parlait la Bible, dans le temps du Seigneur Jésus, peut-être encore aujourd'hui, je ne les connais pas assez bien, bien, ils n'ont pas le même ordre des livres dans l'Ancien Testament. Les livres sont là. Mais quand on parle de Moïse, ça aussi, on sait qu'il parle de la Pentateuque, on parle de Genèse à Deutéronome. Alors, Jésus a parlé aux disciples, aux deux sur le chemin de Maïs, puis aussi aux 11 réunis. On voit ça clairement. Il a parlé de lui-même en parlant de Genèse à Deutéronome. Comment il avait ça? Au moins, il était pas là 2, 3, 4, 5, 6 heures. Mais sans doute, il a parlé de ses souffrances encore, de sa gloire. Puis c'est ça que j'espère de toucher un peu demain soir. Regardez quelques exemples où ce que Jésus aurait pu faire référence, sans dire que c'est de ça qu'il a parlé, mais que ce soit ça ou non, nous les avons dans notre Bible. Et on peut voir l'importance, nous, de connaître nos Bibles, pas seulement le Nouveau Testament, comme il y a beaucoup de milieux qui pensent comme ça, hein. Quand on parle de l'Ancien Testament, là, wow, c'est pas pour nos jours, ça, là. On connaît bien des gens comme ça, puis si tu commences à parler de Moïse, puis tous les enseignements de Moïse, à part l'histoire sainte, ça les fatigue. Je pourrais peut-être vous donner quelques notes demain en parlant des 7 fêtes annuelles de l'Éternel. Est-ce qu'on a déjà fait l'étude ici? Je m'en souviens pas. Je pense que je l'ai donné ailleurs. C'est vraiment intéressant. Les 5 sacrifices dans Lévitique. Toutes les types des images du Seigneur Jésus. Et je me demande s'il aurait parlé au moins un petit peu de ça, parce que sans doute il devait prendre pour acquis que ces deux disciples-là, sur le chemin, et les 11, comme juifs, comme il aurait dû être, ils devaient connaître des Saintes Écritures. L'enseignement du synagogue, l'enseignement au pied de leur père, au pied des maîtres. Et voilà, Jésus parle de lui-même, de Genèse à Deutéronome. Il parle aussi de lui-même dans les prophètes. Puis dans la Bible juive, j'ai appris qu'on parle de Josué à deux rois, puis aussi de Ésaïe à Malachie. Je ne savais pas ça, là. Mais voilà, ça couvre quand même une bonne partie de la Bible dont il aura parlé, puis ensuite, toutes les Écritures. Et à la fin du chapitre 24, il ne dit pas toutes les Écritures, il dit les psaumes. Mais j'ai appris qu'en général, les Juifs appelaient les psaumes les écrits. Mais ce n'était pas seulement ce qu'on connaît comme les psaumes, c'était le reste, tout ce qui était de l'Ancien Testament à part Moïse et les prophètes. Alors, ça comprend beaucoup de livres de l'Ancien Testament, les écrits saints. OK? On voit ça dans les versets 26, 27 et 24. Voilà pourquoi que les disciples, enfin, leurs yeux sont ouverts parce que Jésus leur a parlé des Saintes Écritures. On voit la grâce de Dieu. Combien il veut que ses enfants comprennent. Dans les choses les plus simples, visibles, tangibles, au verset 30-31, ils rompent le pain et ouvrent leurs yeux. Je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont obligés de rompre le pain? Ils auraient pu ouvrir leurs yeux sans faire ça. Et on voit combien qu'il est devenu fils de l'homme, un être humain, pour s'approcher dans les petits détails les plus banals, pour que les siens puissent le connaître. Il montre ses mains et ses pieds. Et sans doute, ils ont vu des marques, n'est-ce pas? Il a mangé devant eux. Quelque chose que moi, je ne tente jamais de manger. Ouais. Du bon poisson. Même au bord de la mer, une fois, il y avait eu quelque chose à manger. Il n'avait rien pris toute la nuit. Mais lui en a pris. Puis il leur a donné à manger un feu tout préparé. Donc, le Seigneur donne des preuves visibles et tangibles du côté humain, mais aussi, il donne une œuvre et une œuvre divine pour ouvrir l'esprit et faire comprendre. Côté humain, côté divin. Donc, on voit, n'est-ce pas, l'importance de la connaissance des Écritures. Notre frère en a parlé justement, ces deux références que j'ai dans mes notes ici, aussi 2 Timothée 3, 14 et 16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et on sait que sans les Saintes Écritures, on ne peut rien comprendre. Mais aussi, notre frère nous a parlé de l'importance du Saint-Esprit. Que ce soit les Écritures du Nouveau Testament, que ce soit les Écritures de l'Ancien Testament, 1 Corinthiens 10, 11, l'apôtre Paul nous dit en parlant d'Israël et de ses expériences, que cela nous sert d'exemple. Important d'essayer de sonder les Écritures. Bien, pour les sonder, pour les comprendre, c'est là qu'on voit aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et notre frère nous en a parlé ce matin, alors ça m'a frappé de voir comment se relier quand même ce qu'il nous présente ce matin. On sait très bien que pour la nouvelle naissance, c'est impossible sans être né de l'Esprit. Mais aussi, pour la compréhension, c'est impossible sans être enseigné de l'Esprit Saint. On va finir avec un passage, ce passage qui parle justement du travail de l'Esprit Saint dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et on commence juste au verset 9, on ne lira pas tout le passage. Verset 9, chapitre 2. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Là, il parle sans doute de l'œil, de l'oreille, du cœur humain. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je pensais, bon, ben, on va en apprendre des choses au ciel. Parce que voilà, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, qu'on ne peut pas comprendre tout de suite, mais je pense que je n'étais pas tellement droite dans ma façon de penser, puis notre frère l'a bien dit ce matin, hein? On ne passera pas le ciel à essayer d'apprendre d'autres choses, à part ce que Dieu a dit. On va sans doute les apprécier, les comprendre davantage, parce qu'on va être au pied près de celui qui est le maître divin. On va apprendre davantage de sa personne. J'ai bien aimé ça, cette pensée, ce matin. Et voici, au verset 10, Paul le dit, en parlant au passé, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. » Comment il nous les a révélés? Il nous les a révélés dans les Saintes Écritures, ce que nous avons entre nos mains. Parce que c'est révélé, ça ne veut pas dire qu'on sait tout, moi en tout cas. Mais parce que c'est révélé, c'est parce qu'il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Pas pour devenir des tout-connaissants et des théologiens, pas dans ce sens-là du tout, mais pour connaître davantage le Seigneur Jésus. C'est ça qu'il a voulu faire avec les deux disciples, avec les onze, n'est-ce pas? Il a parlé de lui-même, les choses qu'il concerne, et que le Seigneur nous aide à le connaître davantage. J'avais à cœur de partager ces choses-là, parce que même si ce sont des choses la plupart qu'on sait déjà, je pense que plus on s'attache à ces vérités-là, à sa personne, et on va le voir encore demain lorsqu'on regarde les différents passages dans l'Ancien Testament qui concernent le Seigneur Jésus, ça nous aide énormément dans notre culte personnel et aussi lorsqu'on se rencontre de façon collective pour adorer le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on se nourrit de sa personne, des choses qui le concernent, notre cœur brûle au-dedans de nous. C'est un fait, ça. Sinon, le Saint-Esprit est attristé ou éteint quelque part. Mais notre cœur est touché, des fois plus ou moins, pas trop pareil, on sait très bien. Mais quand on arrive au culte, quand on arrive pour adorer le Seigneur, ce qui nous a brûlé, ça fait de la vapeur, ça sort. Il y a quelque chose qui paraît. Et là, j'aimerais beaucoup encourager nos frères, vu que nous avons la responsabilité au culte, de prendre audiblement la responsabilité, ouvrir la parole, prier, s'adresser au Seigneur. Bien, il faut donc apprendre ce qui concerne le Seigneur Jésus dans la semaine avant d'arriver. Et que le Seigneur nous aide à faire ça pour sa gloire, son amour, pour l'édification des autres, pour l'édification de nos sœurs qui ont sans doute des choses qui brûlent au cœur aussi et qu'elles aimeraient entendre lorsqu'on est réunis pour adorer le Seigneur. Que ce soit simplement une lecture sans commentaire. Il n'y a pas de meilleur message que la parole de Dieu elle-même. Peut-être un frère aimerait terminer par un mot de prière, s'il vous plaît.